Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode! Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Liv.
Salut Bart.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Bah écoute, je suis très heureux d'être là et de terminer la journée avec toi. On a eu beaucoup d'interviews aujourd'hui, mais j'étais très impatient de vivre ce moment et de pouvoir parler de tes derniers mois, ta carrière et tout. Donc je suis très enjoué maintenant.
Bah écoute, merci beaucoup de me recevoir. Je sais que la journée était longue pour toi, donc moi aussi je suis impatient de pouvoir démarrer ce podcast.
Bon bah écoute, très chouette. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, hein, tu vois, on va parler de distance, on va parler d'organisation aussi. Je t'ai dit que j'avais envie de beaucoup de parler d'échecs et de réussite, parce que je te vois un peu comme la fille modèle de l'athlée, je te le cache pas, de l'athlée français. Tu fais les grands yeux, mais en tout cas moi je te voyais comme ça, tu vois, avec mes yeux d'enfant et mes yeux de fan. Mais avant ça, je t'ai dit, j'aime beaucoup commencer par l'enfance, notamment pour se connecter un petit peu avec les auditeurs et comprendre comment tu étais plus jeune. Et la première question que je pose aux invités, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Alors, mon premier souvenir de sport, je dirais que c'était en primaire, où on avait initiation à tous les sports. Et je me rappelle, ça devait être en CE1 ou CE2, on avait des après-midi athlés, donc en fait des tours de piste. Et c'est vrai que les tout premiers tours de piste, je restais avec les filles, avec mes copines, je me forçais pas trop, mais je sentais que j'avais la fibre athlée au fond de moi, vraiment dès les 7-8 ans. Et je me retrouvais au fur et à mesure à courir avec les gars de l'école. Et je me rappelle aussi de grandes pauses midi à jouer à l'épervier où j'étais toujours la plus rapide, où j'adorais vraiment courir en fait. Mais je n'ai commencé l'athlée qu'à 15 ans, donc plus tardivement.
Ouais, t'as mis, il s'est passé du temps, ouais. Tu saurais expliquer un peu de... Tu dis, ouais, je sentais que j'avais cette fibre. Tu saurais te souvenir des émotions, des sensations qui te faisaient ressentir ça ?
Oui, je pense à une sensation de liberté, de simplicité. Moi, je suis fille unique, donc mes parents se sont toujours dit « Bon, on va l'inscrire à tous les sports co parce que voilà, il faut qu'elle apprenne à jouer en équipe. » Donc, j'ai fait beaucoup de basket. J'ai fait 50 baskets. Voilà, je suis de Limoges originairement, donc évidemment...
Ville de basket.
Et bon, je me débrouillais pas trop mal, mais au niveau coordination, c'était l'horreur, en fait. dès que je recevais le ballon, je le renvoyais parce que je ne savais pas quoi en faire. Mais on m'appelait la mobilette parce que voilà, je courais sur le terrain, je m'arrêtais jamais, infatigable. Mais pas très bonne, et puis bon, assez petite finalement. Et puis un été en 2007, on est parti en Irlande avec ma famille, et je me rappelle que j'ai accompagné mon père sur un footing au début des vacances, et il me lâchait, donc je croyais pas en moi. Et puis à la fin des vacances, c'était moi qui le lâchais, donc je n'avais plus de pitié. Et à cette rentrée, je me suis inscrite en club d'athlée.
Ok, c'est toi qui l'as demandé à tes parents ?
Oui, c'est moi qui l'ai demandé, ouais.
Ok. Du coup, vu que tu arrives sur l'athlée un peu sur le tard, est-ce que tu fais le fameux triathlon, tu as avec un peu de lancer de poids, du saut en longueur et le saut en hauteur aussi que tu as ?
Oh, probablement.
T'as fait un peu tout ça ou ?
Ouais, bon, en minime, tu es toujours. Il faut toujours que tu touches un petit peu à tout avant de te spécialiser.
Bien sûr.
Donc, voilà, je me rappelle faire initiation au javelot et la prof de javelot disait faites tout ce qu'elle ne fait pas et ne faites pas tout ce qu'elle fait. Donc, c'était vraiment. Voilà, tout ce qui était concours, tout ce qui était j'ai un record sur 2000 steeples à 8,27. Donc, pour donner okay. un ordre d'idée. C'était, ouais, j'ai dû passer une minute à chaque rivière. Donc, non, vraiment, moi, ce qu'il me fallait, c'était du plat, courir le plus simple possible. Et voilà. Donc, finalement, je me suis. Petit à petit, j'ai bien progressé en cross. Et j'ai commencé comme coureuse de 1500. Et puis, évidemment, au fur et à mesure, j'ai progressé en distance.
Ouais, bien sûr. Mais c'est hyper intéressant parce que ton parcours, je trouve, il montre qu'on peut découvrir son sport sur le tard. C'est aussi un peu la beauté de l'athlète, je trouve. Quand on a un talent et qu'on a une passion, on peut la découvrir un peu plus tard que les autres. Et au final, ça n'empêche pas de performer plus tard.
Oui, absolument. Je pense d'ailleurs que c'est une clé pour performer. L'athlète est quand même un sport super exigeant, aussi traumatisant. Donc, c'est sûr que commencer à un âge en Benjamin Poussine, je ne sais pas si j'aurais tenu vraiment dans les années seniors, aussi mentalement, tout simplement. Je pense que c'est vraiment essentiel de pouvoir toucher à plusieurs sports ou à plusieurs passions et se découvrir au fur et à mesure.
Ouais. Et à côté du sport, elle était comment, Liv, sur les bancs de l'école ?
Ah, sur les bancs de l'école, typiquement quelqu'un de très sérieux. Voilà, j'ai toujours été quelqu'un de très centré dans mes objectifs, probablement plus premier rang que dernier rang.
Ok, est-ce que tu étais délégué de classe ?
Oui.
Ah, d'accord, on a les dossiers, on a les scoops. Bon, on aurait probablement été copains, parce que moi, je soudoyais les délégués de classe à coups de pain au chocolat et de croissants. J'étais plutôt le petit garçon qui allait offrir des goûters aux délégués pour avoir un petit peu leur clémence au conseil de classe.
Et bien sûr.
Ok. Tu faisais d'autres activités ? De la musique, je sais pas, ou des activités artistiques ?
J'ai fait du dessin. Par contre, tout ce qui est musique, j'ai jamais j'ai pas été élevée dans une famille musicale, on a toujours été plutôt centré sport. Mon papa étant voilà, un fan de sport, j'ai fait du judo, j'ai fait du tennis aussi. Mais non, malheureusement, pas de musique.
Ok. Et vu que tu as goûté à quelques sports, est-ce que il existe un sport que tu te serais vu pratiquer à haut niveau si ça n'avait pas été de l'athlée?
Peut-être la natation. J'étais assez douée en natation. D'ailleurs, ça s'est joué vraiment entre athlée et natation à 15 ans. Un des facteurs, ça a été que la piste était plus près que la piscine, tout simplement. Donc après, de là à dire que j'aurais pu faire du haut niveau en natation, bon, là aussi, j'aurais commencé assez tard sur 15 ans. Et puis physiquement, je ne sais pas si j'aurais eu le bon gabarit. Ouais, natation, je dirais.
Ok. Bon, y a un peu tous les gabarits en natation, mais c'est vrai que comme ça reste un nouvel élément, tu vois, sur le tard, c'est plus compliqué, je pense. On le voit, tu vois, j'ai eu la chance de rencontrer Florent et Laure il y a peu de temps et ils sont quand même nés dans un bassin, donc quasiment...
Oui, c'est sûr. Et puis tu as atteint le très haut niveau très jeune, hein, 17-18
ouais.
ans. Donc,
ouais. Bon, écoute, sur la course à pied, au moins tu vois du paysage, tu vois des choses.
Oui, c'est sûr. Les longueurs de ligne, je ne sais pas si finalement ça m'aurait convenu parce que, comme tu dis, la beauté de la course à pied, bah, c'est le contact avec la nature. Et je pense que c'est vraiment un facteur clé de la performance et surtout du plaisir.
Toi, c'est ce qui te plaît aujourd'hui? C'est ce qui te fait continuer? C'est ce qui te donne envie d'allonger les distances aussi? C'est cette liberté un peu de découvrir
Oui, absolument. Moi, j'aime courir. J'aime vraiment courir. Bien au-delà de la performance ou des chronos à aller chercher ou des médailles, c'est vraiment ce qui me procure de la liberté au quotidien. Pour moi, il n'y a pas une journée où il faut que je me force à aller courir. Donc c'est sûr que même vivre de ma passion, c'est vraiment un cadeau. Donc oui, je dirais que le facteur contact avec la nature, contact avec les autres aussi, est déterminant.
Ouais, ok. Si on revient un petit peu en arrière, justement, à ces débuts d'athlée, j'ai cru voir que tu avais eu assez rapidement des résultats. À quel moment ça devient quelque chose de très sérieux pour toi? Sérieux dans le sens... Alors tu l'as dit, tu es une personne très sérieuse et tu t'engages à fond dans ce que tu fais. Mais à quel moment peut-être il y a eu cette petite voix de te dire « Tiens, le haut niveau, pourquoi pas gagner des courses, pourquoi pas ?» Est-ce que tu te souviens? Est-ce qu'il y a eu un moment en particulier?
Ouais, il y a eu deux moments en particulier, je dirais. Donc moi, j'ai un parcours un petit peu atypique, je dois dire. Je suis partie en Espagne, donc à Valence, d'ailleurs là où je réside maintenant, en 2009 pendant 6 mois. Et je me rappelle, je suis arrivée avec un record à 5 minutes 20 sur 1500. Et j'ai trouvé un groupe, j'ai trouvé un coach espagnol pendant 6 mois. J'étais cadette 2 et je suis rentrée en France avec 4,47. Et là, je me suis dit, bon, ça a été quand même une sacrée en 6 mois, à l'espace de 6 mois. Donc, ça voulait dire une qualification au championnat de France jeune. Et là, j'ai commencé à entrevoir, je dirais, le petit au niveau français, jeune. Donc bon, vraiment la première marche. Et à partir de là, en première terminale, j'ai encore bien progressé. J'ai eu ma première sélection d'équipe de France jeune. J'ai eu ma première médaille sur 3000 mètres, en cadette ou en junior. En junior 1, je crois. Évidemment, arrive l'année du bac et arrive à la remise en question comme pour tout le monde. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc bon, évidemment, comme je disais, les études ont toujours primé pour moi. Donc je me suis retrouvée un petit peu face à un dilemme, c'est-à-dire choisir la voie vraiment traditionnelle franco-française, classe prépa, grande école, monter à Paris. Je savais que bon, l'athlée, ça aurait été très très compliqué de...
Je te confirme.
Voilà, de confirmer en jeune et encore plus de pouvoir faire du haut niveau en espoir et en senior. Et donc, l'idée de partir aux États-Unis a commencé à germer dans ma tête, je dirais, l'année de la première. Et je me suis lancée à 17 ans et demi, je suis partie.
Ok.
Et dans ma tête, j'étais partie pour 6 mois. Et puis finalement, ce furent 7 ans. 7 ans à Boston, ouais.
Ok. Donc ouais, ce choix, c'est effectivement de pouvoir... un peu continuer les études, mais tout en mettant vraiment l'accent sur le sport, quoi. T'y songes déjà? Est-ce qu'il y a un rêve à ce moment-là, tu vois? Si tu repenses à la jeune Liv de 17 ans qui va passer le bac, elle rêve de quoi, sportivement parlant?
Ben, je pense que je rêvais pas de performance ou de Jeux Olympiques en soi. C'était vraiment très, très loin. Je suis partie vraiment dans l'optique de pouvoir continuer... à vivre l'athlée à 100% et aussi à vivre l'athlée d'une manière un peu différente, beaucoup plus structurée. Et voilà, de continuer à m'épanouir dans le sport et de continuer à progresser. Mais je pense pas, ou du moins je me rappelle pas, avoir dans la tête il faut que je sois olympienne un jour, loin de là. Après, j'ai des souvenirs, par exemple, aller voir les championnats d'Europe en 2010 à Barcelone et regarder l'équipe de France avec de grands yeux. Je me rappelle rencontrer Marie-Josée Pérec. Donc, je voyais vraiment ça avec de grands yeux. Mais ouais, j'étais cadette junior. Puis bon, évidemment, quand on voit un événement comme ça dans la tête, on se dit pourquoi pas un jour.
Ouais, ça donne envie, forcément. On a envie de faire partie de la fête. Qu'est-ce que tu retiens de ces années américaines? Tu vois, j'ai rencontré beaucoup d'athlètes dans différents sports qui ont fait cette expérience américaine. Je pense à Laura Georges, qui est footballeuse, tu vois, en équipe de France. Je pense aussi à Kevin Tilly. Alors lui, c'était dans le volleyball. Beaucoup, tu vois, ont été très contents, notamment de cette culture américaine, cette culture de la gagne. Aussi parce que ça a retardé un peu leur arrivée dans le monde on va dire du sport professionnel, parce que peut-être qu'en France aussi, ça correspond peut-être mieux à des personnalités qui sont très précoces, tu vois, avec des structures comme l'INSEP ou dès 17 ans ou même encore plus jeune, tu vois, on te propose de rejoindre et vraiment de faire que ça quasiment. Quels ont été les bienfaits pour toi avec le recul et qu'est-ce que tu en retiens de cette période-là, qui est longue, hein, bien sûr, c'est difficile de la résumer en si peu, mais...
Pour moi, ce fut très long. Parce que je suis restée 5 ans dans le système NCAA, donc 5 ans c'est le maximum. Et puis j'ai fait 2 ans supplémentaires, histoire de m'accrocher plus possible pour le visa.
Toujours en études ?
Toujours en études, ouais. Sauf que là, j'étais plus dans l'équipe, c'était un peu plus compliqué, je travaillais aussi. Oui, comme tu dis, vraiment la culture de la gagne, la culture de ne pas se fixer de limites, la densité incroyable de perf, c'est-à-dire que... On ne gagne pas forcément toutes les courses. Moi, je me rappelle arriver donc à 17 ans. En France, plus ou moins, j'arrivais toujours à faire podium. Et là, je me retrouve dans les profondeurs du classement, 80e, 90e. Mais justement, ça m'a vraiment poussée à garder la tête sur les épaules et à me dire, au fur et à mesure, je vais gagner des places, je vais gratter des places et je vais progresser à mon rythme. Je voyais des filles faire des chronos qu'on ne voit pas très souvent en France. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas moi aussi? Et justement, dans le système américain, on est dans des équipes sur 4-5 ans. Donc, tu arrives, tu es la plus jeune, mais tu peux t'entraîner avec des filles qui ont 4 ans de plus que toi, donc 4 ans de plus en kilométrage, 4 ans de plus d'expérience. Donc, elles te tirent aussi vers le haut tous les jours à l'entraînement. Et puis, au fur et à mesure, c'est toi qui es poussé par derrière, parce que tu deviens la senior de l'équipe. Il y a aussi voilà, cet état d'esprit d'équipe qu'en Europe, j'ai un peu du mal à retrouver. C'est-à-dire que, bon, par exemple, en cross, l'équipe, c'est vraiment ce qui nous poussait à performer, quoi.
Ouais, mais c'est vrai qu'ils ont cette dimension, là, américaine, avec le regroupement, justement, par université, où, OK, tu fais un sport individuel, mais c'est à plusieurs que ça se gagne, en fait. C'est en bossant ensemble qu'on se tire vers le haut et qu'on y arrive. Et c'est vrai que je trouve ça très inspirant, ce modèle-là. On voit de plus en plus d'athlètes français essayer de calquer un peu ce modèle-là. Donc, c'est aussi pour toi une des raisons pour lesquelles toi, tu te sens bien à Valence. Justement, tu as ton petit groupe justement où ça s'entraîne très dur.
Oui, absolument. Je pense que ça a été un facteur de ma réussite pendant les années espoir. C'est-à-dire pouvoir soutenir et être soutenue par les autres filles. Et c'est vrai que j'ai pas exactement le même cadre à Valence, c'est-à-dire que je m'entraîne avec un groupe de garçons amateurs, ce qui pour moi est parfait parce que du coup, m'entraîner avec des gars qui valent 13 minutes 15 sur 5000, voilà, ce serait pas très utile pour moi sur les fractionnés. Sauf que là, voilà, on est 6-7 à valoir entre 30 et 33 minutes sur 10 km. Il y a aussi il y a des jeunes, il y a des espoirs, il y a des masters. Donc c'est très rafraîchissant aussi de pouvoir s'entraîner avec des amateurs car ils ont encore cette fraîcheur, cette motivation d'améliorer leur propre chrono et en même temps voilà, ils prennent beaucoup de recul, ils ont autre chose d'à côté, donc c'est un équilibre vraiment sympathique. Mais voilà, je combine ce cadre de vie à Valence avec des stages où par contre le focus est vraiment 100%, où je suis avec des athlètes pros. Et donc, ça crée une belle dynamique où voilà, c'est pas non plus obsessif, mais en même temps...
Ouais, t'en as besoin, toi, de justement d'être avec des gens qui font un peu la part des choses et qui vont pas dormir attelés, manger attelés.
Oui, absolument. Après, on est tous des passionnés, donc évidemment, on baigne dedans à longueur de journée, mais c'est vrai que trouver un équilibre pour justement réussir à rester dans cette sphère sur le long terme, c'est vraiment primordial, hein, je pense en tout cas.
Ouais. Puis je pense aussi qu'il y a un côté intéressant avec des amateurs, c'est que ils sont là avant tout pour le plaisir, quoi. Enfin, quand tu perfes pas, que c'est pas ton métier, que personne ne t'attend à un championnat du monde, tu sais pourquoi tu cours. Et je pense que ça, c'est aussi rafraîchissant, quoi.
Oui, c'est très rafraîchissant. Et après aussi, c'est très intéressant aussi du point de vue, pour moi, un petit peu marketing, dans le sens où ils sont, certes, ils prennent du recul, mais ils sont aussi hyper investis.
Ouais.
Par exemple, bon, c'est la fièvre Strava, c'est partout pareil. Et puis aussi, enfin, le rapport avec les équipements, le rapport avec les chaussures à carbone. Donc, pour moi aussi, c'est intéressant de ce point de vue-là, voir comment ça évolue. C'est vrai que bon, Valence, c'est un cas particulier, c'est vraiment la ville du running. Enfin, le marathon est vraiment en train d'exploser d'année en année. Moi, je me rappelle, donc, j'ai commencé à courir plus ou moins en 2009. Et je me rappelle courir dans le Touria, donc là où est l'arrivée du marathon de Valence. Et à cette époque, on était trois pèlerins à faire son footing. De nos jours, c'est vraiment y a une ferveur incroyable, surtout en automne quand tout le monde prépare le marathon, c'est une vraie autoroute.
Ouais. Mais c'est un très très beau marathon. J'ai eu la chance d'accompagner des copains pour les encourager il y a quelques années. Je crois que c'était en 2017 ou 2018, je sais plus exactement. Mais c'est une course somptueuse. Et tu sens effectivement qu'il y a une vraie ferveur de la ville pour cette course-là. Donc
Oui,
je
absolument.
comprends que tu t'y sens
D'ailleurs,
bien.
ils ont à peine commencé à homologuer les 5 km. Donc, ça fait quand même un paquet de records du monde déjà de battus, que ce soit sur 10 km, semi, 10 000, 5 000. Marathon, pas encore, mais peut-être. Et maintenant, il y a aussi les 5 km. Donc, ouais, ils sont vraiment au taquet.
Ça marche, ouais. Et puis une très belle start list tous les ans. Puis les conditions sont belles, quoi. Le parcours est cool, génial. Et justement, tu vois, tu m'as un peu fait une passe décisive là, vu que tu parles un peu d'équipement et de suivre avec ton équipe l'évolution de qui peut y avoir sur la technologie dans la course à pied. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses, hein. Nous, on a été mis en relation par Puma, du coup, là, pour le super événement de Renault La Vilaine, le All-Star Perche. Toi, en quoi peut-être le choix de l'équipement va être important, justement, avec tes choix de course? Est-ce que tu es entièrement conquise par les semelles à plaque carbone, par exemple, ou est-ce que c'est 100% de ton entraînement avec ça? J'imagine pas.
Non, non, absolument pas. Au contraire, ça reste une part assez minime après tout. Je garde des chaussures à carbone vraiment pour les séances spécifiques. Donc non, ça reste quand même une petite part de l'entraînement. Mais après, évidemment, c'est essentiel. Je disais tout à l'heure que la course à pied est très simple. Pas besoin de beaucoup d'équipement, mais justement, il faut que cet équipement soit le meilleur possible pour pouvoir perfer et pour pouvoir s'aligner sur la ligne de départ au même niveau que les autres. Donc c'est important quand même.
Ok. Je suis très curieux de savoir effectivement pourquoi tu as fait ce choix de vouloir toi allonger les distances. Alors je sais pas quand est-ce que tu as pris cette décision-là de passer sur marathon. Comment t'es venue cette réflexion?
Pour moi, ça a toujours été quelque chose d'assez naturel. C'est-à-dire que bon, j'ai bien perfé sur 5 000, mais j'ai toujours senti qu'au niveau vitesse pure, le 1500 m'a toujours fait défaut. Peut-être parce que voilà, j'ai pas de fibre rapide, peut-être parce que les entraîneurs que j'ai toujours eu, enfin j'en ai pas eu énormément, mais les entraîneurs que j'ai eu ont toujours été plutôt axés sur le long. Donc c'était une filière que j'ai pas forcément énormément travaillée. Donc je savais qu'au fur et à mesure des années, le 5 000 allait me paraître de plus en plus court. Bon, j'aime beaucoup le 10 000 aussi, le 10 km. Mais pour moi, ça a toujours été une évidence que ce serait sur marathon que je finirais ma carrière. Enfin, ça a été oui, toujours depuis. Bah oui, depuis toujours. Je pense que beaucoup d'entre nous, après tout, quand on touche à des distances longues, bah, le marathon reste l'épreuve reine.
Ok, mais tu vois, après, je suis curieux, peut-être que je vois les choses d'un œil très, très amateur, tu vois, mais effectivement, bah, tu as le record de France sur 5 000, sur 10 000, indoor, ouais, bah, si tu veux. Et pourquoi, tu vois, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose justement à aller faire sur des compétitions internationales en faisant durer la distance. Peut-être que je la connais pas assez, justement, cette distance. Ou est-ce que c'est l'appel était trop fort du marathon pour tout le monde finalement, je m'en rends pas compte.
Alors moi j'ai quand même essayé beaucoup d'années, enfin je dirais au moins 2-3 ans d'aller chercher des minima sur 5000. Et il faut aussi se rendre compte que les minima sont en train d'augmenter d'année en année d'une manière vraiment spectaculaire. L'arrivée des chaussures en carbone y a été pour quelque chose, ça c'est une évidence. Mais sur 5000, je me suis toujours retrouvée à quelques secondes des minima chaque année. Et c'est vrai que ça crée une petite frustration à la distance. Et je pense aussi, mentalement, chaque temps de passage, je les connaissais. Et c'est vrai que je suis arrivée sur 10 000, 10 km avec plus de fraîcheur de ce côté-là. Il faut aussi savoir que sur 5000, 10 000, trouver des courses femmes sur les bonnes bases, c'est vraiment pas évident. C'est beaucoup plus facile sur route parce qu'on court avec des hommes. Donc moi par exemple qui tournais beaucoup autour de 15-30 et je pense que dans les pics de forme je pouvais valoir peut-être entre 15 piles et 15-10, trouver des courses à ce niveau était vraiment pas évident en Europe parce que soit tu allais en Diamond League et ça se courait en 14-30, soit tu restais en France et ça se courait en 15-50 quoi. Donc c'est vraiment pas évident sur 5000 de trouver les bonnes courses à porter et sur 10 000 encore moins. Et surtout sur 10 000, c'est des courses où il y en a très peu et tu peux en faire une après l'autre. C'est pas comme du 800 où tu peux en courir deux par semaine. Donc aller chercher des minima sur ces distances, c'est vraiment pas évident. Surtout les minima qui, pour donner un ordre d'idée, je pense que pour Rio, les minima sur 10 000, ça devait être 32 piles. Et maintenant, on est en train de parler de 30-40. 30-40, entre nous, je pense qu'il doit y avoir 15 femmes qui ont dû les faire, dont 3 non-africaines l'année dernière. Ça veut dire battre le record de France d'une minute. Et sur 10 000, qui, à mon avis, restait mon épreuve préférée, il y a 27 athlètes qui sont prises au niveau global. 27 athlètes, c'est rien. Sur marathon, bon, ça reste le marathon, mais on est en train de parler de... Voilà, après, je n'ai pas très bien compris encore entre minima et ranking. Je pense que ça va être 50% minima, 50% ranking. Mais là, on est en train de parler de 80 athlètes qui vont être pris. On parle aussi de course sur route, donc possiblement avec des lièvres masculins. Et puis finalement, on se dit oui, mais tu peux pas faire de marathon. Tu ne peux faire que de 3.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Un marathon par an, mais sur 10 000, c'est pareil. Tu peux pas non plus faire 10 000 par an. Voilà, réalistiquement parlant, on peut se dire que sur marathon, il y a plus d'opportunités d'aller faire les minima que sur 10 000.
Ouais, donc ouais, finalement, c'est complètement une suite logique. Si toi, tu avais cette envie-là et
oui,
le pressentiment...
Oui,
et...
mis à part les minima, il y a aussi une envie d'aller titiller une distance longue. Mais c'est vrai que si on regarde au niveau français aujourd'hui, toutes les jeunes, quand je dis jeunes, 25, 27 ans, se dirigent directement sur marathon sans forcément passer par le 10 km ou le semi.
Ouais. Donc, c'est une bonne chose selon toi ?
Oui, pourquoi pas. Chacun choisit son chemin. Pourquoi attendre quand les Jeux à Paris arrivent l'année prochaine ? Donc oui, pourquoi pas.
Ok. Non, ben oui, effectivement, c'est... On peut se dire, on peut comprendre ce choix stratégique. Après, voilà, c'est un événement. Il y a d'autres compètes aussi. Il ne faut pas que ça soit une fin en soi, quoi. Je comprends mieux ton choix, en tout cas. Et merci de l'expliquer et aussi de se rendre compte, tu vois, à quel point le haut niveau est compliqué et sélectif, en fait. C'est que c'est pas évident de trouver des courses à ton niveau. Et même quand on a le record sur 10 000, que c'est pas évident de trouver des courses, tu vois. Je pense que le grand public s'en rend pas compte, tu vois.
D'ailleurs, plus tu augmentes en niveau, plus ça devient compliqué. Donc sur route, je pense que nous, les femmes, on a la chance de pouvoir courir avec les hommes, donc d'être quand même entraînées par... Moi, quand j'ai fait mon record sur 10 km, je ne sais pas combien de temps j'étais dans les résultats, enfin dans le bilan général, mais voilà, j'ai pas de lièvre masculin attitré, mais j'ai quand même été portée par l'énergie autour de moi. Mais c'est vrai, quand je vois les garçons qui doivent voilà, trouver les courses, même sur route, et aller chercher les gros chronos, c'est pas évident. Hein.
Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui a changé dans ta préparation? Comment tu as fait cette transition-là?
Cette transition de 10 km à marathon, distance plus longue, ouais.
Tout à fait.
J'ai quand même mis l'accent sur tout ce qui est préparation physique, beaucoup plus. Parce qu'évidemment, le kilométrage doit augmenter. Oui, beaucoup plus de préparation physique spécifique pour éviter les pépins. Plus de stages en altitude aussi.
Ok.
Ça aussi, bon, c'est très bénéfique sur le moyen terme. Après, au niveau bon kilométrage... Évidemment, les distances s'allongent, mais je ne pense pas que ce sera une marche si élevée que ça.
Ok. Peut-être pour se rendre compte, là aujourd'hui, une semaine avec Liv, c'est combien de kilomètres avalés
Bah, c'est pas énormément, hein, surtout en ce moment. Je dirais qu'en époque de charge, pour moi, c'est aux alentours de 140, 150. Bon, sur marathon, il faudrait arriver à 170, 180, je pense, voire 200, en fonction des profils. Après, je pense que chaque profil de coureur aussi a besoin de son propre kilométrage. Il ne faut pas non plus se rentrer dans des moules. Faire plus de 180 bornes, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Bon, les théories divergent, les philosophies d'entraînement aussi. Voilà, pour ma part, j'ai jamais été quelqu'un qui... Enfin, je pense que je borne un peu dans la moyenne, quoi. Pas trop dans l'excès non plus, mais pas non plus moins de 100 bornes par semaine. Si je suis en bonne santé, non.
Ok. Quelle est ta séance préférée?
Ma séance préférée, je dirais que c'est tout ce qui est plutôt seuil. Ouais, tout ce qui serait seuil, fartlek, en nature, ou alors des séances assez longues sur piste.
Ok. Peut-être pour les un tout petit peu moins adeptes de la course à pied, tu peux préciser rapidement ce que c'est le seuil pour nos auditeurs qui viennent d'autres sports?
Bah, je dirais c'est un petit peu le rythme auquel tu peux courir facile dans le dur, dans le sens où ça va être un rythme entre ouais, je veux pas rentrer dans le technique parce que moi non plus je suis pas quelqu'un de très très scientifique, fréquence cardiaque où tu peux maintenir le rythme sur des 3 fois 10 minutes ou des seuils de 20 minutes voilà, sans pour autant entrer dans le lactique, donc quelque chose modéré dur, je dirais.
Ouais, qui est un petit peu, qui va se situer légèrement au-dessus de tes allures cibles, notamment sur marathon, et qui va pouvoir te permettre un peu de rentrer dans le dur et taper. Ok. Et à l'inverse, quelles sont les séances que tu rechignes à faire et que tu ne veux pas faire le matin en te levant?
Bah, je disais que j'avais pas beaucoup de fibres rapides, donc je dirais tout ce qui est lactique, hein. Tout simplement. Tout ce qui est... Bon, maintenant, j'en fais plus énormément, mais pour le 5000, par exemple, je me retrouve à faire des 3 x 800 ou peut-être des 2 x 1000, 2 x 500. Où là, vraiment, voilà, il faut vraiment se rentrer dedans jusqu'au bout. Ouais, ça, j'ai jamais vraiment apprécié. Et après, je dirais que le summum, c'est l'essence de côte. Voilà, l'essence de côte, pour moi, c'est l'horreur. L'horreur. à Valence, j'en fais plus. Ça, c'était une séance de côte toutes les semaines à Boston, où on avait vraiment la côte du marathon, parce que mon campus était situé au 33e kilomètre, donc en haut de la côte Heartbreak Hill, donc la côte Casqueur, donc on s'en est tapé les côtes. Mais à Valence, voilà, c'est une philosophie d'entraînement différente, et c'est vrai que c'est beaucoup plus plat. Donc j'échappe assez au coach, je dois dire, mais c'est vraiment mon point noir.
Ouais, donc le marathon de Boston, c'est pas pour tout de suite alors?
Bah, pas pour tout de suite. Après, bon, c'est un marathon évidemment sur ma to-do list. Après, j'ai entendu dire que ce qui est le plus dur en marathon de Boston, c'est vraiment la descente, justement. De monter pendant 4 miles, de redescendre jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais c'est un peu comme New York, je dirais qu'à la fin, tu fais pas forcément pour le chrono, mais plus pour la place en soi. Donc voilà, c'est une autre philosophie de course, je dirais.
Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Comme tu l'as dit, c'est des courses très particulières avec une histoire et on les a forcément dans notre to-do list et on sait que c'est pas forcément pour aller chercher le chrono du siècle, bien évidemment, quoi. Ok, hyper intéressant. Tu bosses encore ta foulée, là, aujourd'hui?
Oui, je bosse pas mal ma foulée. Parce qu'évidemment, après une dizaine d'années de pratique, ben justement, les pépins commencent à arriver. Donc, c'est surtout, c'est malheureusement à ce moment-là, on se rend compte que bon, il y a des petits soucis de foulée qu'il faut régler pour pouvoir rester en bonne santé et performer. Donc, beaucoup de travail de pied. Voilà, essayer de bien garder le pied. Moi, j'ai par exemple le pied gauche qui est plat. Donc, essayer de faire en sorte qu'il reste assez en pronation, qu'il soit capable de rentrer en pronation et de sortir rapidement. Donc oui, ça c'est vraiment essentiel. Et ça veut aussi dire trouver chaussure à son pied, comme on dit.
Ok, ouais, effectivement. Du coup, comment est-ce qu'on trouve chaussures à son pied?
Ben, je dirais en essayant plusieurs modèles, tout simplement. Et pour ma part, je pense que voilà, la chaussure en carbone, il faut vraiment la prendre comme avec des pincettes, c'est-à-dire ne pas non plus se dire, bon, ben, je vais faire tous mes footings en sens en carbone, même les footings tranquilles. Je dirais qu'il faut vraiment garder la chaussure en carbone pour les compétitions ou pour les séances vraiment spécifiques. Parce que, bah, comme toute bonne chose, voilà, il y a aussi, à mon avis, des points négatifs dans le sens où le pied sera un peu plus paresseux ou aussi notre foulée est légèrement modifiée. Moi, j'ai vraiment senti au niveau des lombaires. Le fait de l'amorti. Je me rappelle faire les 20 km de Paris en 2019 avec des chaussures légères parce que à l'époque 2018 pardon, j'avais pas encore des chaussures à carbone et j'avais fini voilà 20 bornes sur du béton, j'avais fini vraiment avec les lombaires en feu. Et l'année suivante, je refais exactement le même parcours et absolument rien, aucun problème musculaire. Donc là, j'ai vraiment senti l'apport bénéfique des chaussures en carbone. Mais je pense qu'il y a quand même des points négatifs. Je pense dans le haut niveau, il y a beaucoup maintenant de problèmes de pubalgie, de ischio, de choses comme ça. Et on se demande si ça vient pas forcément aussi de ces nouvelles chaussures. Ouais.
Ok, mais écoute, merci pour ce point hyper technique et précis. Non, mais de donner ton avis, parce que c'est vrai que bah, d'un point de vue plus amateur, tu vois, c'est aussi difficile de s'y repérer. Aussi, parce qu'on fait pas autant de kilomètres que vous, et du coup, on n'est pas forcément, tu vois, à même de vraiment pouvoir toujours ressentir la différence sur le long terme. Et du coup, avoir ton avis, c'est hyper précieux, je trouve, pour s'y repérer, quoi. Donc, merci de le préciser. Et je saurai comment trouver mes chaussures à mon pied pour cette petite métaphore. Il y avait un sujet quand même que je voulais beaucoup t'en parler, je te l'ai dit en introduction. En travaillant l'interview et le podcast, moi je voyais un petit peu le livre comme la fille parfaite de l'athlétisme. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de l'amener sur le terrain de l'échec. Et alors forcément, j'ai fait mes petites recherches, je sais que tout le monde ne réussit pas tout. Peut-être d'un point de vue sportif ou humain, est-ce que toi, il y a un échec qui t'a appris plus que les autres?
Il y en a beaucoup, hein.
Alors
Comme pour tout le
déjà, tu
monde.
peux casser l'image de
Ah oui,
livre.
tout à fait. Tout à fait. Bah, je dirais que l'échec d'un sportif, c'est la blessure chronique. C'est ce qui t'apprend le plus, bah, je dirais. Bon, pour faire court, moi, j'ai jamais été blessée de ma vie. Jamais été blessée de ma vie jusqu'à mes 26 ans, où j'ai commencé à avoir des problèmes de bassin, de psoas qui sont devenus chroniques. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris du recul sur ma pratique. Voilà, ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai dû faire le deuil des JO de Tokyo, qui était, voilà, pour moi, 2019, ça s'était fini avec un record de France de 10 km qui m'avait un petit peu ouvert les portes sur le très haut niveau international, on va dire, et sur de potentiels minima olympiques. Après, il y a eu la pandémie. Moi, je me suis blessée deuxième partie 2020. Et donc, j'ai voulu couvrir un peu sur la blessure, entre guillemets, pour arriver aux Jeux de 2021. Et c'est là où j'ai compris qu'on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça m'a fait aussi énormément mûrir du point de vue humain aussi, parce que, comme je disais, j'étais probablement un peu trop perfectionniste sur beaucoup d'aspects. Et à un certain moment, j'ai dû me prioriser. Enfin, me donner la priorité à moi-même et aussi à mon mental. C'est vrai que voilà, on arrive un peu tous à des stades de carrière où bon, la blessure est toujours à un virage, quoi. C'est normal, hein. Si on court proprement, ça arrive tôt ou tard. C'est compliqué d'enchaîner les saisons parce qu'on est toujours sur une ligne très fine entre haute performance et pépins. c'est le plus gros échec de ma carrière parce que voilà, c'est une blessure qui est compliquée à gérer, qui est longue. Il faut aussi savoir faire la part des choses, la part des pressions extérieures, la part de la pression qu'on se soumet à soi-même. Et aussi, voilà, essayer de ne pas se prendre la tête avec des dates limites et sur l'état de forme. Donc, je pense honnêtement que je suis en train d'essayer d'en tirer le maximum de cet échec pour pouvoir mûrir de manière vraiment holistique. Et je dirais que c'est en train de fonctionner. J'espère que je prends le haut niveau d'une manière un peu différente. Alors qu'avant, j'avais comme des œillères sur la performance et je pense que je ne prenais pas assez soin de tout ce qui était autour.
Ok. Quand tu dis tout ce qui est autour, c'est ton bien-être, c'est...
Oui, absolument. C'est mon bien-être, ma santé mentale. Oui, moi-même comme personne, plus que comme sportive. Et c'est vrai que souvent, quand on fait du sport de haut niveau depuis longtemps, on croit que c'est notre définition, mais on est bien plus que Liv l'athlète ou que Jean l'athlète. Ou... Voilà, on est bien plus que ça. Donc, c'est vrai que parfois, il faut de gros échecs pour justement appuyer sur le bouton stop et se dire « Ok, mais à part ça, qui suis-je ?» Et bon, ça fait un peu peur, mais je pense que oui, au fur et à mesure du temps, ça permet de prendre un peu de distance avec tout ça. Et je dirais que ça s'applique pas seulement au niveau, mais à la vie de tous les jours, au boulot de chacun. Et c'est vrai que bon, je pense surtout, après moi, je vais avoir 30 ans à la fin d'année, mais je vois aussi au niveau professionnel, j'ai beaucoup d'amis aussi qui, dans leur boulot, qui se remettent, qui ont comme des petits burn-out et qui se remettent un petit peu en question. Ok, est-ce que je vais pouvoir garder ce rythme jusqu'à la retraite? Est-ce que j'aime vraiment ce que je fais? Est-ce que je me sens épanouie? Donc je pense qu'il faut, il faut essayer de tirer du positif de tout échec. Donc pour moi, ça a été la blessure chronique. Ouais.
Bien sûr. Peut-être pour compléter, tu vois, ce que tu as dit sur l'identité de l'athlète de haut niveau. C'est vrai que c'est dur de se dire qu'on est tout, tu vois, qu'on est autre chose qu'un athlète, mais c'est aussi dur de se dire qu'on est tout, tu vois. Si maintenant j'ai envie d'être en colère, je suis en colère. Si j'ai envie d'être souriant, je suis en colère, tu vois. Et on est toutes les émotions à l'intérieur de nous, et on est, du coup, on est capable de tout. Parce que si on est capable de toute émotion, dans ce cas-là, on est capable de toute action, tu vois, et on peut faire beaucoup de choses, quoi. Et c'est dur de s'en rendre compte, je trouve, tu vois. Quand on est à fond dans ce qu'on fait, quoi.
Oui, ben c'est moi. Je pense que j'étais vraiment à fond, focus sur les jeux. Après, moi, je suis devenue pro à 100% en 2018. C'est vrai que les deux premières années, je me suis un petit peu lancée à l'aveugle, c'est-à-dire qu'au niveau, par exemple, financier, c'était pas évident. J'ai pris des risques qui ont payé. Mais c'est sûr que quand on est un peu comme dans des montagnes russes, on se rend pas forcément compte de tout le reste. Et il faut faut se heurter un panneau stop pour dire ok, mais où est-ce que je vais exactement? Est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que je m'épanouis? Donc je pense que dans la vie, il faut effectivement heurter des panneaux stop de temps en temps pour justement se donner la priorité à soi-même.
Il y a quoi dans ta recette du coup du bonheur? Il y a quels ingrédients aujourd'hui?
Justement, je suis en train d'essayer de la concocter. Je dirais de let go un peu plus, c'est-à-dire se laisser aller un petit peu plus, prendre plus au jour le jour. Voilà. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien programmer, planifier.
Sans blague, disons. J'aurais jamais dit ça de toi.
Pourtant. Et c'est vrai que bon, la vie, c'est pas si simple. Et justement, il faut savoir être beaucoup plus flexible, s'adapter davantage, et je pense que c'est ça en fait la recette du bonheur, c'est flexibilité, adaptation et essayer de pas se prendre la tête et éviter le sentiment d'impuissance, je dirais.
Ok, bah écoute, j'ai un très bon livre à te recommander qui s'appelle Les Antisèches du Bonheur de Jonathan Lehman. Jonathan qui était un ancien trader new-yorkais ou un avocat d'affaires, je sais plus exactement, mais quelqu'un qui a gagné beaucoup, beaucoup d'argent dans des milieux pas très sains, professionnels, qui a vécu aux États-Unis et qui voulait justement, qui est tombé un peu dans la méditation, dans tout ça, et qui aujourd'hui pour moi est une des personnes qui a à la fois connu une vie à peu près normale, sur un rythme à peu près normal, mais aussi dans un microcosme très lié à la performance, avec énormément de pression, énormément de côté malsain, parce qu'il parle de drogue, de choses très néfastes. et qui est passé de l'autre côté de la barrière et du coup qui arrive à voir les deux mondes sans être, tu vois, un peu le Dalai Lama qui n'a pas non plus connu, tu vois, ce que le commun des mortels a connu, tu vois. Donc je te recommande ce livre parce que il y a 13 préceptes, je crois. Certains font partie de mes mantras maintenant. Je te le recommande. En plus, ça se lit rapidement, c'est tout petit, c'est très simple à lire.
Ah ouais, super, je vais sur ma to-do list.
Je te le recommande. Tu lis un peu ?
Oui, bah je lis de temps en temps, ouais. De temps en temps.
Ok. T'as un bouquin là qui toi t'as marqué que tu pourrais nous recommander. Ça peut être sur le bonheur, mais ça peut être aussi sur la course à pied ou même juste un bouquin pour s'évader, quoi, tout simplement.
Bah, un petit peu sur les thèmes comme ça, des bouquins sur le self-development, on va dire. Je dirais Grit de Angela Duckworth. Ça m'a bien aidé. J'ai quand même noté quelques citations. Oui, je dirais ça. Et c'est vrai qu'en rebondissant un petit peu sur tout ce qui est néfaste, je dirais aussi la présence des réseaux sociaux, je pense aussi que ça peut être un peu une épée à double tranchant, surtout pour les jeunes générations, et justement un petit peu tomber dans l'excès de comparaison, l'excès de perfectionnisme. Donc moi je pense que j'ai eu la chance quand même de grandir un peu sans tout ça.
Ça t'as pu le ressentir quand même, si tu le mentionnes
Mais moi j'ai un petit peu pu le ressentir quand même, surtout au niveau générationnel, c'est-à-dire moi je suis née en 93, mais je pense que j'ai vraiment senti la différence avec, par exemple, je suis donc née en 93, mais j'étais dans des équipes, notamment à l'université, avec justement des filles qui arrivaient, qui étaient nées en 98-99. Et déjà, l'approche était très différente. Et donc, je pense que ça s'est encore plus... Ça a encore plus changé récemment. Mais c'est vrai que, c'est tombé un petit peu dans la piscine des réseaux sociaux à 100%. Il faut toujours quand même prendre tout ça avec des pincettes. Et c'est vrai que, justement, quand on est dans des sphères de haute performance, c'est pas forcément... facile d'évoluer et de naviguer entre tout ça, quoi.
Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, ça amène à beaucoup de comparaisons, à beaucoup de, je vais pas dire de l'espionnage, mais effectivement qui peuvent créer de l'envie, un sentiment de mal-être aussi, parce qu'on voit qu'une toute petite partie chez les autres, et c'est souvent la partie qu'on a envie de montrer, et c'est souvent alors c'est pas forcément dans des dimensions stratégiques, mais on se montre pas en train de pleurer ou en train de galérer, quoi. On se montre sous notre meilleure facette. Donc ça peut laisser croire aux autres qu'il y a que du beau, quoi. Donc ça peut être effectivement être difficile à gérer, quoi, pour les gens qui réalisent pas ça, quoi.
Oui, absolument. C'est comme mettre que les entraînements qui ont marché sur Strava et pas mettre les footings à 2 à l'heure ou les entraînements qui sont pas bien passés. Donc c'est partie de l'être humain, mais c'est sûr que c'est pas toujours évident de... Oui, je pense qu'il faut prendre des pincettes avec tout, hein. Okay. Tout en modération.
L'heure tourne et je vais pas te garder trop longtemps non plus, mais il y a une question que j'aime beaucoup poser aux athlètes, notamment ce que je te disais, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, qui sont dans les filières de performance, et j'aime bien formuler la question comme ça, c'est de dire, tiens... S'il y a une jeune fille, tu vois, demain, tiens, au meeting, qui vient te voir et qui dit « Ah tiens, Liv, là, voilà, j'ai 15 ans, j'adore courir aussi, je suis une passionnée, et j'aimerais vraiment bien peut-être en faire ma vie. Est-ce que tu aurais deux conseils pour moi ? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à cette jeune fille ?
Être progressive, on va dire, la progression, dans le sens où d'y aller vraiment de manière... pas à pas, c'est-à-dire ne pas forcer les choses pour pouvoir continuer dans le temps, pour pouvoir garder cette passion intacte. Donc que ce soit en volume horaire d'entraînement, en kilométrage et mentalement. Donc voilà, il y a vraiment de manière progressive, et je pense que l'entraîneur de ce point de vue-là est essentiel. Personnellement, je pense que j'ai eu la chance de tomber sur de bons entraîneurs au bon moment, qui ont toujours été dans la cueillette plutôt que la récolte. Donc je dirais la progressivité. Et le deuxième, ce serait de ne pas se prendre la tête, tout simplement, de laisser faire les choses et de saisir les opportunités, pas forcément trop réfléchir, prendre des risques dans la vie. Moi, par exemple, je suis partie, j'avais dans la tête de durer 3 mois aux États-Unis. Je pense que je n'ai pas trop... réfléchi, et finalement c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre. Et c'est pareil quand je suis partie en Espagne, je me suis dit bon, allez, je tente l'Espagne pendant quelques mois et je vois. Et finalement, je pense que ça a plutôt bien marché. Donc, je dirais, voilà, la prise de risque. Prise de risque, mais tout en étant, voilà, progressive dans l'approche.
Ok. Tu as essayé de griller un peu les étapes ? Si toi, tu mentionnes ce conseil-là, c'est...
Non, je pense pas que j'ai grillé les étapes. Au contraire, je pense que ça a été une clé de performance sur le long terme. Je pense que le déclic, c'est vraiment de junior à espoir, où forcément on arrive aux études supérieures. Surtout chez les filles, on est un peu plus inquiète en général.
Ou inquiétée,
ouais. C'est vrai que bon, au niveau français, par exemple, on est nettement moins, pro que nos homologues masculins. Je pense, au niveau nombre et au niveau investissement.
Ouais, puis je pense, malheureusement, tu vois, il y a encore des dynamiques un peu de genre où prendre des risques quand t'es un garçon, c'est un peu plus normal. Et puis, t'as une fille de 18 ans, on aurait peut-être des conseils un peu plus sécurisants ou un peu moins volontaires, tu vois. On dirait peut-être plus facilement aux garçons. Oui, bah si tu prends 2 ans, c'est pas grave, tu te rattraperas plus tard, tu vois. Ce qu'on dira pas toujours à une fille, quoi.
Oui, c'est sûr.
Ce qui est en train de changer. On vit dans une belle époque où les choses changent petit à petit.
Oui, elles sont définitivement en train de changer. Voilà, il faut à la fin, il faut pas avoir de regrets. Donc, saisir les opportunités quand il le faut. Et puis, au pire, ça marche pas, ben on revient sur autre chose. C'est pas la vie ne s'arrête pas là. Hein.
Exactement. Exactement, c'est très bien dit. La toute dernière question que je pose aux invités du podcast Extraterrien, c'est de savoir est-ce que il y a un athlète ou une athlète que t'aimerais bien justement écouter peut-être sur une de tes sorties longues, sur une conversation un peu comme ça, pour la découvrir, leur découvrir, en apprendre un petit peu plus sur la construction de sa carrière. À qui tu tendrais le micro?
Moi, je tendrais le micro, toujours en restant un peu dans le marathon féminin, à notre record woman de France, Christelle Donnet, qui maintenant a pris sa retraite il y a 3-4 ans, je dirais. Je pense qu'elle a une trajectoire de vie, une trajectoire de carrière très différente à la mienne, c'est-à-dire qu'elle est arrivée sur le tard. Elle avait bien une vingtaine d'années et elle a eu une carrière aussi très tardive. Elle a été championne d'Europe, je crois, à 40 ans. Et c'est quelqu'un aussi de très altruiste, qui a énormément d'expérience, qui prend vraiment la peine de te conseiller. C'est quelqu'un aussi de très, très humble. C'est quelqu'un de très performant sur marathon. Donc, je pense pour faire performance sur marathon, mentalement, il faut être d'acier. Donc, pourquoi pas avoir un peu ses tips et sa propre trajectoire de vie.
Ok. C'est quelqu'un que tu connais, qui t'inspire ?
Oui, c'est quelqu'un que je connais plutôt bien. On a été en contact. Elle m'a beaucoup conseillé, notamment sur le 10 km et le 10 000. Parce que bon, j'avais pas beaucoup d'expérience quand je me suis lancée. Et c'est vrai que le 10 000 sur piste, c'est particulièrement mental. Donc on a été en contact, on est toujours en contact d'ailleurs.
Très bien, écoute, vu que je me suis régalé pendant cette petite heure, je suis sûr que c'est une excellente recommandation. Merci infiniment Liv pour ce moment partagé, j'espère que tu as pris autant de plaisir que nous. Comme on dit chez moi, je te dis à très bientôt, parce qu'il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas.
Exactement.
Salut.
À très vite.
À bientôt.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.